VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le plus grand quotidien indépendant de Zambie a été fermé par les autorités, faute d'avoir payé des impôts, a indiqué son rédacteur en chef aujourd'hui, accusant le gouvernement de censure à 2 mois de l'élection présidentielle. La police et le service des impôts ont physiquement fermé les bureaux du poste mardi soir. Le poste créé en 1991 est critique envers le président actuel Edgar Lungu, candidat à sa propre succession. Satisfaction de la société civile à Bangui à la suite de la condamnation de l'ancien vice-président congolais à 18 ans de prison. La Cour pénale internationale a infligé cette peine à Jean-Pierre Bemba pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique. La sentence est le résultat de la pression que plusieurs organisations de la société civile avaient exercée sur le gouvernement de Bangui pour saisir la CPI. Joseph Bindoumi est le président de la Ligue des droits de l'homme.
Nous avons attendu beaucoup de temps pour avoir le résultat que nous avons eu aujourd'hui, c'est-à-dire la condamnation de M. Bemba à 18 ans d'emprisonnement ferme. Mais ça nous réjouit. Quand bien même la procédure a été trop longue, trop lente, et puis qu'au cours de cette procédure, d'autres parties civiles sont décédées et n'ont pas écouté le jugement. Quand bien même la longueur de ce procès a fait que d'autres événements plus graves sont venus un peu léguer l'affaire Bemba au deuxième plan, nous sommes quand même très satisfaits de cette décision dans la mesure où il arrive, en ce qui concerne la République centrafricaine, au très bon moment pour qu'un message fort soit envoyé en direction des gens qui, aujourd'hui, comme les hommes du MLC, de Jean-Pierre Bemba commettent aussi des atrocités sur le territoire national.
Joseph Bindoumi, joint à Bangui. Le Mali veut changer sa constitution. Un comité d'experts composé uniquement de Maliens a été mis en place à cet effet. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est l'avocat Maître Mamadou Ismaël Konaté qui est le président du comité. Il n'a que 6 mois pour présenter son rapport. Le travail interne à cours a permis d'élaborer les documents de base tels que la note d'orientation, la note méthodologique, la segmentation de la constitution, la synthèse des travaux de commission précédemment mise en place pour les réformes non abouties, l'élaboration des thèmes et opinions des jurisconsultes, la mise en place des commissions d'écoute des opinions des jurisconsultes, l'analyse des expériences d'ailleurs. Ce comité a l'avantage d'avoir en son sein des juristes et des personnes et ressources de qualité. Ce comité a la lourde responsabilité d'accomplir une mission noble et combien importante pour l'avenir du Mali, car il s'agit de la loi fondamentale de la République. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Gambie, 3 hommes poursuivis pour avoir accusé le président Yahya Jammeh d'animosité envers les Mandingues ont comparu hier devant un tribunal de Banjul. Selon leur avocat, leurs aveux ont été obtenus de force. Idriss Fall.
Selon l'acte d'accusation, Ebri Maketa, Moussa Fofana et Alassane Diallo ont dit que les autorités ont enlevé Solo Sandeng, un opposant décédé pendant sa détention. Les 3 prévenus auraient reproché au président Yahya Jammeh de ne pas aimer les Mandingues. Leur avocat Abdoulaye Fati affirme qu'ils ont été battus, menacés avec une arme et contraints de faire des aveux écrits. Le président Yahya Jammeh est de l'ethnie Diola, alors que le chef de l'opposition, Ousseynou Darbo, lui aussi en prison, est un Mandingue. Pendant un meeting à Talendeng, non loin de Banjul, le président Jammeh a affirmé que tous les fauteurs de troubles dans le pays étaient des Mandingues. Adama Dien, le conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide, s'est ému de ce discours contre les Mandingues, surtout lorsque Yahya Jammeh menace de les tuer un par un. Monsieur Dien rappelle que cette rhétorique au vitriol et les discours de haine peuvent aussi constituer un facteur de déclenchement d'atrocités, comme on l'a vu au Rwanda en 1994.
En Libye, au moins 18 membres des forces pro-gouvernementales ont été tués hier dans des combats avec le groupe État islamique assiégé dans son propre fief à Sirte, Eric Manirakiza.
Les forces du gouvernement d'Union nationale ont lancé le 12 mai une offensive pour reprendre Sirte, où elles ont pu entrer le 9 juin. Les milices de Misrata, les mieux armées du pays, des unités de l'armée libyenne et des gardes des installations pétrolières participent à l'opération militaire. Dans un communiqué, le centre de commandement basé à Misrata fait état de combats féroces contre les djihadistes. Depuis le début de l'offensive pour la reprise de Sirte, la progression a été ralentie par des djihadistes qui se cachent dans des maisons ainsi que des francs-tireurs postés sur les toits. Les islamistes ont aussi disséminé des explosifs sur les routes et ont recours à des kamikazes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Europe, le spectre d'un Brexit continue de planer. Stephen Clark est un écrivain britannique qui vit en France. Il a publié God Save the Brexit, un roman qui raconte avec beaucoup d'humour le tiraillement d'un électeur britannique plongé dans un débat plus complexe qu'il en a l'air. À ce point, le oui et le non à la sortie de l'Union européenne sont au coude à coude dans les sondages. Stephen Clark nous parle du poids de l'immigration dans la campagne.
D'abord, ça va dépendre combien de personnes se déplacent, parce qu'il y a, dans tous les sondages, il y a une bonne dizaine de pourcentages d'indécis. Donc c'est peut-être les indécis qui vont décider le vote. Ça dépend aussi si on continue de répéter qu'une fois sorti, on réglera le problème d'immigration, parce que vous savez qu'il y a énormément de réfugiés syriens et afghans qui arrivent en Grèce. Et ceux qui veulent sortir d'Europe s'imaginent que si on sort, ce problème va disparaître et qu'il n'y a aucun immigré qui va essayer de rentrer en Grande-Bretagne. Depuis quelque temps, la campagne pour sortir répète de plus en plus fort que le plus grand problème en Europe, c'est l'immigration. Et s'il continue, ça peut motiver plein de gens, parce que il y a des gens qui n'aiment pas Londres. Par exemple, si vous allez à Londres, vous allez dans n'importe quel café, la personne qui vous sert, ça sera quelqu'un qui est arrivé récemment en Grande-Bretagne. C'est une réalité économique, et sans eux, tous les restaurants de Londres seraient des selfs, il n'y aurait personne dans la cuisine. C'est un peu la même chose pour les hôpitaux, mais il y a des gens qui sont contre ça.
L'écrivain britannique Stephen Clark, auteur de God Save the Brexit. 25 civils, dont 6 enfants, ont été tués dans les raids aériens sur Raqqa, le fief du groupe État islamique en Syrie, indiqué aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Les raids menés mardi ont visé plusieurs quartiers de la ville de Raqqa et fait des dizaines de blessés, dont certains sont dans un état critique, a précisé l'OSDH, ajoutant qu'il était dans l'immédiat impossible de savoir qui avait effectué ces frappes. Les talibans ont libéré 21 otages enlevés hier dans la province du Helmand, dans le sud de l'Afghanistan, mais le sort de 6 autres reste inconnu. Les otages avaient été capturés alors qu'ils circulaient à bord de plusieurs bus et camions sur la route Kandahar-Herat, reliant les capitales du sud et de l'est du pays, dans le district particulièrement dangereux du Vashi. Les responsables militaires afghans pour le sud du pays ont assuré dans un communiqué que les otages avaient été libérés lors d'une opération de l'armée mardi soir. Et puis ici aux États-Unis, 2 hommes ont été reconnus coupables mardi par un tribunal américain de tentative d'aide à l'organisation djihadiste État islamique. Ils risquent plusieurs années de prison. Nader Elouzayel et Mouanad Badawi, âgés de 25 ans et originaires d'Anaïm près de Los Angeles en Californie, avaient été arrêtés en mai l'an dernier alors que Elouzayel s'apprêtait à embarquer dans un avion pour la Turquie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et la Corée du Nord a tiré coup sur coup aujourd'hui 2 puissants missiles à moyenne portée qui semblent avoir parcouru des distances bien plus importantes que lors des précédents lancements infructueux. D'après le ministère sud-coréen de la Défense, les condamnations internationales n'ont pas tardé. Washington comme Tokyo parlant de violation claire des résolutions de l'ONU, Séoul promettant de rechercher un durcissement des sanctions contre Pyongyang. On termine avec les matchs de l'Euro 2016 en France. C'est avec Nicolas Pineau.
Dans le groupe E, le choc, Belgique-Suède et malheur aux vaincus, et l'Italie face à l'Irlande. À noter que Zlatan Ibrahimovic a annoncé sa retraite internationale avec la Suède après l'Euro. 2 autres matchs dans le groupe F, Islande-Autriche et Portugal-Hongrie. Le Portugal a bien du mal à assumer son statut d'outsider de cet Euro 2016. 2 rencontres et 2 matchs nuls pour débuter la compétition. Les Portugais affrontent donc la Hongrie pour leur 3e match. Ils doivent absolument s'imposer sous peine d'être éliminés de la compétition.
Merci Nicolas Pineau, la star du FC Barcelone, Lionel Messi. Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Argentine en inscrivant le 55e but de sa carrière internationale lors de la demi-finale de la Copa América 2016 contre les États-Unis mardi à Houston, au Texas. Le quintuple Ballon d'Or a espéré offrir à l'Argentine lors de la Copa América, dont la finale aura lieu dimanche, son premier titre depuis 1993. Retrouvez dans 50 minutes Henri Francis pour un nouveau point de l'actualité. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.